Bonjour, vous écoutez Amina Kalash pour l'émission Ça va parler, des infos sans prétention, des chroniques avec passion, c'est notre émission. Ils ont le même âge et la même niaque, deux talents de leur génération avec beaucoup d'ambition. Avec moi, une pépite du stand-up français qui a rejoint la troupe du Jamel Comedy Club pour la 10e saison, Ayoub Marceau, et un jeune nantérien qui s'est distingué de nombreuses fois grâce à l'organisation de ces événements liés au foot, Hassan Thiam. Bonjour.
Bonjour.
Ça va ?
Ça va.
Ça va, très bien, merci.
Ils font les timides, là.
Non, c'est qu'on s'est déjà dit bonjour juste avant.
Ouais, mais avant, les gens, ils sont pas au courant,
non,
en fait.
Non, faut leur dire. On s'est dit bonjour trois fois avant de venir. C'est pour ça que j'ai pas répondu.
Ça commence très bien. Hassan, tu es né en 1994 et tu viens de la cité des Pablo Picasso à Nanterre. Le football et toi, c'est une histoire de toujours. Tu débutes très jeune sur le gazon vert jusqu'à atteindre un très bon niveau et jouer dans l'équipe du PSG. Malheureusement ou heureusement, c'est toi qui nous le diras tout à l'heure, tu te blesses lourdement. Tu continues de jouer au foot, mais cette fois-ci en salle. Jusqu'à travailler dans une société d'agents de joueurs de football, tu reçois une aide pour financer tes études et en contrepartie, tu organises un tournoi de football à Nanterre. Comme tu ne fais pas les choses à moitié, tu réunis plus de 200 joueurs et 700 spectateurs. Rien que ça, c'est un carton plein et s'ensuit une belle aventure avec Nike et le PSG. C'est fidèle ?
C'est ça, ouais.
Ok. Et finalement, est-ce que ça a été l'arrêt de ta carrière dans le foot ? Ça a été un tremplin finalement ?
Un tremplin, je sais pas, mais en tout cas, ça m'a permis de voir autre chose. Après, moi, depuis que je suis petit, quand bien même je jouais au foot, dès l'âge de 14-15 ans, j'avais déjà fait un diagnostic en vrai sur mon niveau. Et je savais pertinemment que j'allais pas forcément devenir professionnel. Donc en vrai, je jouais au foot pour jouer au foot. Et pour resituer la chose, j'ai commencé à jouer au PSG à partir du moment où j'ai joué au foot en salle. J'ai joué un peu avant au PSG. Ensuite, je me blesse et je reviens et je vais au futsal du PSG parce que c'est compliqué de réintégrer la section normale. Et du coup, à la suite de ça, je signe en D1, c'est-à-dire le plus haut niveau possible.
À Bagneux.
En foot en salle à Bagneux. Et je suis même aux portes de l'équipe de France, U21, c'est-à-dire moins de 21 ans. Mais à ce moment-là, tout s'enchaîne. Ça devient plus concret pour moi de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire dans le milieu des agents. Et du coup, j'arrête et je me lance à fond.
Et comment t'es arrivé justement à faire ce diagnostic ? Parce que c'est pas tout le monde, tu vois. Il faut quand même avoir une certaine maturité pour se dire, en fait, j'ai pas le niveau d'être pro.
Non, moi, c'était très simple à faire parce que j'ai une bande de potes. On est quatre potes et ils étaient tous en centre de formation. Enfin, sur quatre, il y en avait deux qui étaient en centre de formation. Et donc du coup, tu te compares vite en fait. Tu te compares vite et tu sais que t'as pas le niveau en fait de ton pote. Et tu vois même que ton pote qui a un très haut, qui a un très bon niveau, c'est un peu compliqué pour lui déjà. Et si t'es réaliste et si tu veux vraiment vivre du foot, parce que moi, je voulais vraiment vivre du foot, peu importe le moyen.
D'accord.
Donc je me suis vite dit, j'ai vite parlé à un de mes potes qui lui m'a dit, écoute, on était jeunes, hein, j'avais 16 ans. Du coup, moi, je lui dis, j'aime bien le métier d'agent et tout, t'as un agent toi et tout. Il me dit ouais et tout, j'en ai un. Et du coup, de prix de folie, il me le présente. Et du coup, moi, je m'entends bien avec lui. Et du coup, derrière, après, l'histoire s'enchaîne. Après, c'est pas aussi rose que ça. Il y avait beaucoup de problèmes. Mais en gros, le gros du gros, c'est ça.
Mais ça a été une bonne expérience, justement, quand t'as intégré une des plus grandes agences.
Ouais, ça, c'était un peu après. Ça, c'était. J'ai commencé à vouloir devenir agent à partir de 16 ans. À 16 ans, j'ai fait mon premier transfert. Un joueur qui s'appelle Manuel Cabi, qui aujourd'hui d'ailleurs est gravement blessé, mais qui est devenu professionnel par la suite, pas par la suite de mon transfert, mais ça lui a permis de réintégrer le foot parce qu'il était en stand-by. D'ailleurs, c'est grâce à un de mes autres potes que j'ai rencontré Manuel Cabi. Et du coup, à la suite de ça, j'ai continué, etc. Et de fil en aiguille, de rencontre en rencontre, à l'âge de 19 ans, j'ai commencé à travailler pour Stellar Group.
Oui.
Qui est aujourd'hui la plus grosse société en termes de portefeuille client de joueurs, la plus grosse du monde. Et à cette époque-là, ils avaient fait le transfert de Gareth Bale au Real Madrid. Donc, c'était un truc de ouf pour moi. Et donc, du coup, ouais, c'est à partir de 16 à 19 ans, il y a eu une période un peu de flou. Et ça s'est vraiment accéléré à partir de 19 pour Stellar, qui était une bonne expérience pour répondre à ta question, mais qui a eu aussi son lot de déceptions. Mais il y a eu plus de bonnes choses Ouais. Au final, parce qu'aujourd'hui, si je suis là aujourd'hui, c'est un peu grâce à ça. Parce que sur une année ou sur deux ans que j'ai travaillé avec eux, bah, j'ai appris ce que j'aurais appris peut-être en 10 ans, parce que j'ai tout vu. J'ai vu les bonnes choses, j'ai vu les négociations, j'ai appris à parler anglais. J'ai vu aussi l'humain avec de l'argent, l'humain qui trahit,
ouais, justement, l'humain parce que qui c'est... ment.
Enfin, j'ai tout vu en fait. Ouais. J'ai vu tout ce que je devais voir dans le milieu. Donc du coup, ça m'a permis aussi de faire un deuxième diagnostic de ce milieu-là.
Mais justement, c'est un milieu qui... Enfin, le football, ça rassemble tout le monde, toutes les classes sociales, mais aussi où il y a beaucoup de travers, de démesures. Et comment tu as pu gérer ça?
Tu le gères sur le moment, parce qu'au début, tu ne sais pas. Tu ne sais pas vraiment d'où ça va venir. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup confiance. Et moi, une poignée de main, ça peut suffire avec moi. Mais dans ce milieu-là, ce n'est pas forcément le cas. Donc du coup, tu l'apprends sur le tas, en fait.
Mais il faut être fort d'esprit, quand même.
Il faut être fort d'esprit, il faut être fort mentalement et il faut en vouloir, en vrai, parce que c'est très compliqué. C'est très, très, très compliqué.
Et tu as des conseils pour ceux qui veulent se lancer?
Dans ce milieu-là, c'est fini, il ne faut plus le faire.
Il ne faut plus le faire. Pourquoi? Tu vois, peut-être que si Ayou veut se reconvertir, donc c'est mort.
Non, c'est compliqué, je ne le souhaite à personne. Franchement, en tout cas, le milieu d'agent de joueur, je le souhaite à...
Ouais.
Après, si quelqu'un veut se lancer, qu'il se lance.
Faut être passionné.
Enfin, c'est même plus que de la passion, je pense. Enfin, il y a très peu de chances de gagner sa vie dans ce milieu-là. Et c'est un peu comme le rap, tu vois. Enfin, je dirais même encore pire, parce qu'aujourd'hui, le rap, ça va, tu vois. Tu peux en vivre, même si t'es un petit rappeur, tu vois, ça va. Tu vois, tu peux quand même en vivoter. Et là, c'est un milieu où c'est vraiment l'humain vs l'humain, tu vois. Et du coup, je pense qu'il n'y a pas plus compliqué. Ouais, surtout avec le foot, divisé avec l'argent, et surtout qu'il n'y a pas... Enfin, c'est compliqué, en fait. C'est un milieu où il y a beaucoup de préjugés. On a l'impression que c'est toujours le jet privé, les 4 téléphones, etc. Mais c'est pas vraiment ça.
T'en as deux, toi.
Comment ?
T'en as deux. Bientôt 4. Et justement, t'es devenue, du coup, une référence dans l'organisation d'événements de football. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours ? T'as été... Enfin, ça a été tout un cheminement avec la bourse financée par la mairie de Nanterre, tout ça.
Mmh. Ouais, en fait, ça, c'est quelque chose qui m'est tombé dessus un petit peu. Enfin, c'est une opportunité que j'ai réussi à saisir, que je me suis créé aussi dans un autre temps. C'est très simple, en fait. C'était de par le deuxième diagnostic que j'ai fait de ce milieu-là. Du coup, j'avais eu beaucoup de déboires, si on peut appeler ça comme ça, beaucoup de problèmes. Et du coup, je me suis dit, bon... le vrai problème, c'est que j'étais pas structuré, j'avais 19 ans, j'étais avec des gros poissons, enfin plus que des gros poissons, j'étais avec une entreprise qui est une. C'est même pas une société, c'est une entreprise, c'est une machine. Moi, je viens d'un quartier, je viens d'habiter à Nanterre, enfin c'était compliqué déjà, je me sentais déjà heureux d'être dans le dossier et pas vraiment légitime pour avoir une structure. Déjà, je me disais, bon, on va attendre, que tout se fasse et après on verra. Du coup, à la finalité, dès qu'on voit que bah, en fait, on ne peut pas être rémunéré de par le fait qu'on n'a pas de société, etc., et que les gens ils en jouent, du coup, après, tu te dis, bon, je vais revenir à zéro, je vais aller me structurer un petit peu et je vais revenir un peu plus fort. J'ai beaucoup appris, je suis jeune et donc ça va revenir, tu vois. Donc du coup, c'est ce que je fais, je me dis que je vais me structurer. Donc j'apprends qu'il y a le CNR, contrat d'intérim de réussite. Je l'apprends d'ailleurs via Nicolas Sen, que tu connais.
Oui.
Et du coup, j'étais parti avec lui. Je crois que je l'ai accompagné. Je crois que c'est ça l'histoire. Je crois que je l'ai accompagné. Et c'est ce jour-là, en l'accompagnant là-bas.
Ces jours, c'était pour le Sénégal, quand il faisait.
Je sais plus. Ouais. Il y allait comme ça.
C'est ça, ouais.
C'était une période où on était beaucoup ensemble. On faisait beaucoup de sport ensemble. C'est-à-dire que ce jour-là, je ne sais pas, je l'accompagne au CNR. Et du coup, il parle de. Je ne sais plus, il parle de quoi. Je ne me rappelle plus. Et du coup, moi, j'en profite pour en parler avec ces gens-là, parce que je ne les connaissais pas forcément. Je les avais connus aussi via lui une fois. À l'époque, ça s'appelait le CLAP.
Oui, c'est le CLAP, avec David Azoulay.
Et du coup, je suis avec lui ce jour-là et j'en parle. Et je dis, ouais, voilà, moi, j'aimerais bien qu'on me finance des livres de droit. Je dis ça comme ça, tu vois. À l'époque, je suis en droit à la fac. Et j'avais arrêté justement parce que j'étais dans le concret, sur le terrain. Mais du coup, je me dis, bon, bah, là, il faut que je revienne à la théorie pour bien me structurer, pour passer ma licence d'agent. Du coup, je leur parle d'une formation qui est déjà existante et ils me disent, bon, bah, pourquoi tu veux seulement les livres ? Parce que tu avais plusieurs options. Tu pouvais soit prendre que les livres. Moi, c'est ce que je voulais de base. C'était la formule la moins chère.
Ouais.
Ou soit prendre la formation complète en e-learning, c'est-à-dire que tu travailles à distance et que tu peux continuer d'avoir une vie normale et travailler, tu vois. Du coup, ils me disent, ouais, bah, pourquoi tu ne prends pas cette option, tu vois ? Et du coup, moi, je dis, ah, bah, si jamais il y a la possibilité de l'avoir, bah, go, tu vois. Donc, du coup, moi, je monte tout un dossier. Et Nicolas m'aide encore pour ce dossier-là. Il m'aide à le monter. Je me rappelle, il m'avait fait une espèce de présentation, etc. Parce qu'il est grave fort dans les trucs informatiques.
Ouais, ouais.
Du coup, il m'avait aidé à faire ces présentations-là. Du coup, je présente ça, où je, en fait, je remets tout ce que j'ai fait, hein, transfert à Arsenal, etc., etc., les transferts que j'ai réussi à réaliser pendant ma période agent. Et du coup, bah, mon dossier, il passe. Et à la suite de ça, on me demande d'apporter une contrepartie à la ville de Nanterre. Et du coup, ça pouvait être n'importe quoi, en fait. Cette contrepartie, on m'a pas imposé de faire un tournoi de foot ou quoi. C'est vraiment une idée personnelle. Et du coup, moi, je me lance sur ça. Je sais même pas pourquoi.
T'organisais pas déjà avant ?
Non.
Non.
Non. En fait, j'en organisais, mais dans les centres de loisirs. Parce qu'à ce moment-là, je travaillais au centre. Et avec un ami qui s'appelle Nayen, on s'amusait beaucoup à faire des espèces de matchs à la cantine. École contre école. Jacques Decourt contre Robespierre, etc. Et c'était vraiment un vrai délire. Genre, on s'appelait le soir, on faisait des tactiques et tout ça. On était dans un clip. Et du coup, moi, en fait, je suis encore dans cette matrice-là.
Ouais.
Donc, du coup, je suis encore au centre de loisirs la journée. Bon, je me dis, bon, bah, non, à ce moment-là, je travaille au collège. Donc, je me dis, bon, peut-être que je vais faire un truc bah, pour les collégiens, en fait. Du coup, je me lance dans ce tournoi-là, dans l'idée de faire un tournoi pour les jeunes. Et en fait, un tournoi qui paraissait petit pour moi, et ben, en fait, pour les autres, c'était pas du tout petit. Moi, j'arrivais à parler à des joueurs de Ligue 1, des joueurs de Ligue 2, des joueurs de Première Ligue. J'arrivais à avoir des maillots. J'avais un partenaire qui était Uncut, à l'époque, la marque de Booba. Tout ça, c'était les connaissances que j'avais, enfin les gens, les contacts que j'avais déjà acquéris dans mon petit coin tout seul. Donc du coup là, je sortais un peu de l'ombre et je ramenais tout ça et les gens comprenaient pas en fait. Ils disaient mais attends, mais comment Hassan y fait pour connaître tous ces gens-là, tous ces joueurs, etc. Donc du coup après il y a l'article du Parisien qui tombe, qui explique un peu mon parcours et tout ça. Donc du coup le tournoi c'est une réussite. Et la suite de ça, un truc en amène un autre. Donc du coup après ça termine à faire beaucoup plus d'autres choses.
Ouais, et t'as justement cassé les codes et les clichés, parce que la cité des Pablo Picasso, elle a beaucoup souffert, beaucoup moins aujourd'hui, mais des clichés, et alors qu'aujourd'hui on y tourne des clips, t'as des grandes célébrités qui viennent, ou même des films, et c'était un peu ta revanche par la suite de ramener Nike au Tourayo ?
Non, c'était pas forcément une revanche, c'était un objectif.
Ouais.
De base, j'ai toujours voulu faire un tournoi sur la dalle des Tourayo. C'est quelque chose qui m'anime depuis très longtemps. Et du coup, quand je contacte Nike pour un tournoi que j'avais l'occasion de réaliser à l'Arena, sur le parvis de l'Arena, je trouvais ça sympa de faire quelque chose sur l'esplanade de l'Arena. Donc je me dis, bon, je vais contacter Nike, étant donné que j'avais le contact, pour faire du testing de produits, parce que je savais qu'ils faisaient ça. Du coup, Nike, à ce moment-là, ils me disent, non, on ne peut pas faire ça sur un tournoi à part entière, mais par contre, sur nos propres tournois, oui, et actuellement, on cherche un lieu pour le 92. Pour les éliminatoires du 92. Donc, moi, je saute sur l'opportunité, encore une fois. Je leur dis, bah, venez et tout, on peut faire le tour de mon quartier, on peut trouver un lieu. Enfin, moi, ça me plaît, tu vois. Je peux vous guider, je peux vous aider pour faire ça. Du coup, ça commence comme ça. Ils font le tour du quartier, je leur montre les différents city stades qui existent. On s'arrête sur celui de la Poire. Du coup, à la base, des bases, le tournoi Nike devait être à la Poire, normalement.
D'accord.
Du coup, dès qu'ils s'arrêtent sur le tournoi de la Poire, je me dis, bon, au moins, il y a une sécurité, le tournoi, il va se faire, c'est lourd. Donc, moi, je leur dis, attendez, j'ai peut-être un truc j'ai peut-être un truc qui peut vous intéresser, c'est une envie que j'ai depuis très longtemps, il faut que je vous montre. Donc du coup, on rentre dans les tours, et ils ne comprennent pas trop, ils disent « ouais, tu nous emmènes où ?»
Mais c'est vrai que quand tu ne connais pas, tu es quand même assez impressionné, ouais.
Du coup, je leur dis « ouais, vous inquiétez pas » et tout ça et tout. Donc du coup, on arrive à la dalle et il n'y a rien. Et du coup, je leur dis bah, « pourquoi on ne fait pas un tournoi ici ?» Et du coup, ils tombent, ils disent « ouais, pourquoi pas ?» et tout, ça serait mortel et tout ça. Donc du coup, ils rentrent dans mon délire et après tout s'enchaîne, on fait le tournoi, c'est une réussite. Dans l'histoire de Nike, c'était une première de réaliser un tournoi en plein milieu d'un quartier, pas en périphérie, en plein milieu d'un quartier, de tracer les lignes. Pour l'anecdote, c'est moi qui les ai fait. Enfin, c'est moi qui ai tracé le terrain. Il est encore existant. Là, les petits jouent des fois, ils jouent dessus. Du coup, c'était une réussite en termes d'affluence. Ils n'avaient jamais vu ça. En termes de retombées, enfin, c'était énorme, en fait. Même, enfin, ça est parti jusqu'en Russie. Il y avait même des Russes qui sont venus visiter le quartier après parce qu'ils ont vu les images. Donc du coup, c'est allé loin et derrière, bah, ça a fait boule de neige, on va dire. Mmh. Du coup, le truc qui est bien, c'est qu'avant ça, avant cet événement précis, il n'y avait pas grand-chose sur la dalle, voire rien du tout. Donc du coup, le truc qui est bien, c'est que derrière, ça a permis d'un peu débloquer la chose. Et aujourd'hui, il y a beaucoup plus de choses qui se font. Après, bon, j'ai été recontacté par Nike pour faire un événement mondial en juillet, etc. etc.
Il y a eu aussi l'avant-première d'une paire de... Ouais. De crampons que même Cristiano Ronaldo n'avait pas testé. Donc en fait, t'as fait rêver les jeunes, quoi.
Rêver, j'espère pas.
Bah si, quand même. Ouais, tu leur as fait toucher en fait un rêve. C'est pas rien ouais, de ramener.
Quand je dis rêver, j'espère pas parce que c'était très concret en fait. Ouais. Quand je dis ça, je me comprends. Enfin, je m'explique. Enfin, quand je dis rêver, c'était réel, en fait, ce qui s'est passé. C'était plus qu'un rêve. Tu vois, donc, il y a Jadon Sancho, un joueur qui aujourd'hui va peut-être signer dans l'un des plus grands clubs du monde, qui était présent en bas des tours. Aujourd'hui, les petits, ils allument FIFA. Ils voient la tête de Sancho qui ouvre les jeux. Enfin, je trouve ça un truc de ouf, un peu. Et bah, encore une fois, c'était une deuxième première, qu'il y a un lancement produit de la marque Nike, qui est aujourd'hui la plus grande marque du monde, en vérité, en plein milieu d'un quartier, encore une fois. Enfin, ça n'a jamais existé, ça n'existera peut-être plus. Et le fait que ce soit, que c'ait été à Nanterre, du moins au Pablo, c'est un truc qui nous suivra pendant très, 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 très longtemps. Parce qu'aujourd'hui, les petits, c'était au mois d'août, en février. Ouais. Les petits, ils en parlent comme si c'était avant-hier. Et du coup, peut-être que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, les petits raconteront ça encore à leurs enfants, je sais pas, tu vois, c'est lourd.
Ah, trop bien. Et t'as ouvert aussi l'Olympisme à la cité, avec les Jeux de la cité.
Ouais.
Et du coup, ça s'est passé comment ?
Ça, c'est la somme de tous les événements que j'avais réalisés en amont. Du coup, ça faisait beaucoup de foot, en fait. Et en fait, j'avais l'impression que j'étais pas mieux sur le football, mais ça, c'est une réalité. Le foot, c'est ma vie. Mais il fallait donner un peu plus de matière à ça. Il fallait un peu aller un peu plus loin. Dans le sens où j'avais pris goût à faire de l'événementiel, j'avais pris goût à faire plaisir aux jeunes. Les jeunes aussi avaient pris goût à ce que la dalle soit animée. Donc, du coup, je me dis, il faut aller un peu plus loin. Donc, du coup, la réflexion, elle est venue avec Yard. Yard, c'est l'agence de production de Nike. C'est un média aussi à la fois. Donc, du coup, tout ce dont je raconte depuis tout à l'heure, tout ça, c'est fait grâce à Yard et avec Yard. Et du coup, la discussion, elle vient avec eux. À la base, je voulais faire juste Golden Blocks, le concours d'athlétisme là, du sprint qui avait déjà eu lieu à Nanterre. Du coup, moi, dans mon idée, c'était toujours de le faire à la dalle des Tourailleaux, ce qui n'avait pas encore existé. Donc, je me suis dit, bon, si j'arrive à faire un truc un peu athlétisme, etc., bon, ça va un peu changer, ça continue d'animer la dalle. Du coup, à partir de ce moment-là, avec Yard, on rentre un peu dans une matrix et on se dit, bah, pourquoi pas faire que de l'athlétisme ? Pourquoi faire que de l'athlétisme et du foot ? Pourquoi pas faire tous les sports, en fait ? Donc, du coup, après, on réfléchit à un truc. On se dit, bon, à Nanterre, il y a la U Arena. La U Arena va accueillir les Jeux Olympiques en 2024.
Ouais.
On était en 2019. Il y a peut-être un truc à exploiter. Sortir les Jeux du stade pour les ramener là, ils ont toute leur légitimité, c'est-à-dire dans la cité. Donc, après, on a imaginé un nom autour de l'Olympisme et de la réalité dans le lieu dans lequel on est, c'est-à-dire la cité. La cité, ça fait référence aux Jeux Olympiques aussi. À l'époque, c'était des cités, Athènes, Sparte, etc. Du coup, on s'est imaginé un délire comme ça et la ville a adhéré à l'événement. Donc, du coup, on a posé la première pierre au mois d'août, juste un mois après l'événement mondial qu'on a connu sur la dalle. Du coup.
Mais ça a bien marché.
Ouais, bon, ouais, ça a bien marché en termes d'influence. Les jeunes étaient contents.
Il faisait chaud en plus ce jour-là.
Ouais,
il faisait très très chaud.
T'étais là ?
Ouais.
C'est vrai ?
Je suis passée vite fait parce que
t'as bien aimé ?
Nico m'a dit de passer. Ouais, moi j'avais kiffé. Ouais. Mais c'était la canicule.
Ouais, c'était compliqué.
Ouais.
Mais le truc qui est bien, c'est qu'on ne le ressentait pas vraiment.
Enfin, non, en fait, c'est. Bah, t'oublies. Quand tu kiffes, t'oublies en fait.
Il y a eu deux concerts. Il y a eu le concert d'un rappeur local qui s'appelle Ramso. Il fait des millions de vues. Et il y a aussi Chili.
Cinéma.
Il faisait le buzz à ce moment-là. Du coup, je l'ai ramené pour faire le show. Pour le premier jour. Deuxième jour, c'était Bramso, c'était sur deux jours. Et le truc était vraiment bien. Moi, ma plus grande satisfaction sur cet événement-là, c'est même pas le fait qu'il y ait plusieurs sports, c'est le fait qu'on ait pu ouvrir aux plus petits. Parce qu'en fait, je me mettais à la place des plus petits de Nanterre qui avaient pu assister au tournoi fantôme et au lancement mondial, mercurial. C'est qu'ils ne pouvaient pas jouer, en fait.
Ouais.
Du coup, ils étaient spectateurs. Et du coup, je me suis dit, en faisant ça, on avait réservé la première journée pour les centres de loisirs et les jeunes de moins de 15 ans. Du coup, les jeunes, ils ont pu profiter et ils se sont vraiment sentis investis. Et c'était ça ma plus grande satisfaction sur cette journée-là. Enfin, sur ces deux jours-là, c'était vraiment d'avoir pu voir des jeunes de 4 ans qui étaient en train de faire de la gym en plein milieu de la cité ou du basket, etc. Du coup, c'est amené à être pérennisé sur la ville de Nanterre et même ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est de... Mon objectif personnel, c'est que ça soit racheté par Nike ou quoi. Enfin, que Nike s'approprie le projet.
Pour que tu puisses les développer dans d'autres cités, justement.
Voilà, et le truc qui est bien, c'est que dans le storytelling de tout ça, en fait, la base, tout ça, c'est à Nanterre. L'événement, il est né à Nanterre, il se répétera à Nanterre encore périodiquement. Du coup, c'est très lourd.
Et du coup, tu dis dans une interview, je suis un jeune qui a faim.
De ouf.
Ouais, et du coup, ça veut dire quoi ? Comment est-ce que tu caractérises cette ambition ?
Comment je la caractérise?
Ouais. C'est-à-dire... T'as eu des modèles, des gens qui t'ont poussé, en fait, c'est venu de toi, tu t'es dit, écoute, c'est comme un peu ce que tu disais, tu voulais faire du foot à tout prix, que ce soit devant ou entre guillemets derrière. Et comment t'as eu, enfin, ça s'est développé cette faim, tu vois, cette soif?
Non, c'est dans mon éducation, je pense. Ma mère m'a toujours appris à vouloir faire plus, toujours. Des fois, je ramenais des bonnes notes.
Ouais.
Je ramenais peut-être, je sais pas, des 15 sur 20, etc. Et ma mère me disait, pourquoi t'as pas eu 20?
On a eu la même maman.
Tu vois. Et du coup, j'ai grandi comme ça, en fait. J'ai grandi dans le toujours plus. Et les conditions dans lesquelles j'ai vécu aussi m'ont conditionné à vouloir beaucoup plus, en fait, parce qu'on n'avait pas grand-chose. Du coup, quand tu pars de zéro, j'aime bien dire ça, quand tu pars de zéro, tu peux que tout prendre, en fait. Donc du coup, c'est ça mon... Bah, depuis tout à l'heure, quand je te parle, c'est que les opportunités que j'ai saisies, en fait. Et c'est par la faim, par l'envie, la détermination, que derrière, on arrive à ses fins, en fait.
Ouais.
Ça se répète. La faim pour arriver à ses fins.
À ses fins, ouais. Ouais, c'est pas mal, j'aime beaucoup. Et justement, ce sport a pris une très, très grande place dans ta vie. Est-ce que tu dois faire autre chose que du foot?
Est-ce que je me dois faire autre chose que du foot? C'est-à-dire?
Sortir un peu du foot, de tout ce qui est bon, à part l'olympisme. Enfin, on parlait des Jeux de la Cité, mais faire autre chose que des événements liés au foot ou ton travail lié au foot.
Non. Non, après, il y a les Jeux de la Cité, en vrai. Ouais. Donc, c'est mon travail, ça.
Oui, je sais, mais...
Les Jeux de la Cité, c'est pas que du foot.
Oui, non, je sais que c'est pas que du foot.
C'est vrai, hein.
Non, je sais, mais je te l'ai dit, c'est pas que du foot.
Ouais.
Mais
donc, mis à part les Jeux de la Cité...
Ouais.
Non,
il faut toujours qu'il y ait du foot, quoi.
Ouais, bah après, c'est ma passion. Ouais. C'est ma passion.
Et du coup, ton fils, tu vas lui donner cette soif?
Je sais pas s'il voudra faire du foot.
Ouais.
Je sais pas, on verra. Peut-être, sûrement, à force de me suivre, sûrement.
Ouais. En général, il suit le papa, hein.
Ouais, je pense. On verra après. Franchement, depuis que j'ai un enfant, j'y pense même pas à ça.
Ouais.
Je me dis, sûrement qu'il est en bonne santé, après le reste, on verra. Mais... S'il a les mêmes gènes que moi, c'est possible. C'est possible qu'il soit bon en plus.
Ça ne me surprendrait pas. Et du coup, est-ce que tu as des projets futurs, à part ce qu'on disait tout à l'heure sur les Jeux de la Cité?
Est-ce que j'ai des projets futurs? En vrai de vrai, aujourd'hui, c'est les Jeux de la Cité. Vrai de vrai, c'est...
Tu te concentres essentiellement là-dessus?
Ouais, je me concentre essentiellement là-dessus. Et c'est vraiment les Jeux de la Cité. Essayer de faire en sorte de faire un truc vraiment carré. Et de le développer partout et ailleurs, en ayant toujours comme point de ralliement, comme point de base, Nanterre, tu vois. Mais c'est vraiment les Jeux de la Cité, en vrai de vrai.
Super. Ouais, merci beaucoup, Hassan.
De rien. Je peux aller ? Non, j'en ai
pas. Ah ouais, mais c'est toi l'humoriste.
Je suis le comédien.
C'est ça.
Poser des questions, moi aussi.
Je t'en prie, si t'as des questions.
T'as fait du futsal, c'est ça? Tu joues toujours, là?
Je fais des fives, maintenant. Je suis le genre de mec qu'on appelle
à 22h. Hamza Khairedine.
Hamza Khairedine, ouais, ça me dit un truc à toi. Il joue pas
Sporting Paris.
Sporting, ouais, j'ai joué contre lui.
Ouais, je crois qu'il a signé à Bagneux il y a pas longtemps.
J'ai joué contre lui.
C'est mon cousin, c'est mon vrai cousin.
C'est vrai?
Ouais, c'est mon vrai cousin. C'est ça, quand t'as parlé de futsal.
J'ai joué contre lui, je crois qu'il était au Kremlin avant.
Ouais, exactement.
Ouais.
Ouais, il est de là-bas en fait.
Kremlin,
il est 13e.
Je crois que j'ai joué contre lui à cette époque-là.
Et là, il est au Sporting Paris maintenant.
Ouais, Sporting, c'est lourd.
Le hasard fait bien les choses.
Ouais.
C'est mon vrai cousin. C'est comme ça que j'ai connu le futsal. Moi, je connaissais pas non plus.
C'est vrai.
Et c'est pareil. C'était... Ouais. Ouais, vraiment.
Pourtant, t'as le physique pour faire du futsal. T'es grand.
Ah ouais,
ouais,
les grands, ils peuvent faire du futsal.
De faux.
Je sais pas. Il y a quoi? Il y a pas Otmani. Non, Otmani, il est petit. Il y a Texiera. Ils sont tout petits. C'est ça, les joueurs de futsal.
Texiera. Après, il y en a beaucoup. Hein.
Il y a un grand, ouais. Il y a un grand arabe aussi. Et ouais, je connais le futsal.
Il y en a beaucoup.
Ouais, non, mais c'est terrible comme sport.
Ouais,
bah, moi, je l'ai connu grâce à mon cousin. Et je sais qu'il avait été en équipe de France 2 ans. Et après, je crois qu'il a arrêté. Enfin, il a arrêté l'équipe de France.
Non, aujourd'hui, là, ça se développe de plus en plus, le futsal. Ça se développe de plus en plus. Moi,
Mais les deux gros clubs, c'est Bagneux et Sporting Paris.
J'ai quitté le wagon. Hein,
les deux gros clubs, c'est Bagneux, Sporting Paris et le club de Nantes.
Anciennement, franchement.
La chapelle sur Erd, non?
Anciennement, c'était KB et Sporting. Aujourd'hui, il y a Access, qui est très très fort.
C'est quelle ville, Access?
C'est à Villeneuve-la-Garenne. Access, ils ont recruté le meilleur joueur du monde, là, actuellement.
Ah ouais, ok.
Ouais, c'est sérieux. C'est comme s'ils avaient recruté, Cristiano Ronaldo du foot.
Il est de quelle origine?
Il est portugais.
Ricardinho.
C'est les meilleurs. Incroyable.
Mais c'est vrai que ça s'est pas mal développé. Moi, j'entends toujours parler de five, faire six. Et...
Ouais. Mais là, du coup, là, Access, ça va être encore pire. Là. Ça va vraiment être, je pense, ceux qui vont être vraiment le détonateur du futsal. Je pense qu'avec l'arrivée de... Non, en Europe, c'est déjà développé. Hein. C'est juste qu'on n'en entend pas parler en France. Mais il y a des... Il y a que en France, c'est pas professionnel.
Parce que c'est pas diffusé en fait. Ouais, ouais, aussi non plus.
Il y a des Ligues des Champions et tout, genre des
coupes. Ouais, ouais, non, c'est grave sérieux. Il y a des en Espagne, c'est super sérieux. Il y a des enfin la nation, l'équipe de France, c'est la seule nation dans les coupes du monde, etc., qui n'est pas professionnelle. Sinon, les autres, c'est des joueurs pros. Il y a des 10 000 personnes à leur match. Non, c'est super sérieux.
Et en fait, ce qui change par rapport au foot normal, c'est le lieu et le nombre de joueurs dans l'équipe, c'est ça ?
C'est ça. Même le jeu en lui-même, intrinsèquement, c'est pas la même chose.
C'est très technique en futsal.
Ouais, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose.
Ça veut dire quoi être technique ? Moi, je. Pour le coup, je connais pas.
Ça veut dire que je vais donner un exemple simple. Dans le foot à 11, ouais. Normal, déjà, c'est la superficie est la plus grande. Mais quand je te parle de technique. Tu verras jamais de contrôle du plat du pied. Enfin, du plat du pied, c'est-à-dire du plat du pied. Enfin, je sais pas comment.
Oui, non, mais ouais, je.
Du coup,
je vois.
Au futsal, c'est que des contrôles de la semelle, c'est pas les mêmes courses. Ça ressemble un peu à du hand, en vrai, avec du pied.
D'accord.
Avec le pied, pardon. Ça ressemble un peu à du hand.
Ok, d'accord.
C'est plus proche du hand que du foot à 11, je trouve.
D'accord.
Ouais, ça va très vite.
Ouais, ça va très vite, c'est fatigant.
Ouais, c'est très fatigant.
C'était un sport qui n'était pas fait pour moi en vrai. J'étais bon.
En fait, je pense que
parce que j'aime pas l'endurance.
Le foot à 11, je pense que ça prend plus de temps pour construire une équipe. Donc, c'est plus. Mais le foot en salle, c'est plus fatigant. Quoi.
Très fatigant.
Faut être très physique.
Tu sors toutes les 2 minutes, ça, tu vois pas ça au foot. Ouais. Tu sors toutes les 1 minute, 2 minutes.
Ouais,
et un turnover incroyable.
Ça dure 90 minutes aussi ou...
Non, du tout. C'est deux fois 20. Mais c'est avec des arrêts de jeu. C'est-à-dire que dès que la balle sort en touche, c'est vraiment 20 minutes de jeu pur. Si la balle sort à 19-40 et qu'elle revient en jeu à 20 minutes après, le jeu il est toujours à 19-40.
D'accord. T'as compris ? Ok. Ouais, je vois très bien. Ouais.
Okay. Tous les arrêts de jeu sont. C'est des arrêts de jeu pour de vrai. Ça s'arrête.
Ouais, ça continue pas comme dans un match classique.
90 minutes, il serait mort, les mecs.
Non, c'est impossible.
Impossible. C'est trop long. Tu peux pas. C'est impossible, 90 minutes.
Déjà 40 minutes à la fin.
C'est trop éprouvant.
D'accord. J'ai jamais testé.
Ouais, c'est
pas vrai.
Continue à faire de la radio.
Je jouais au foot quand j'étais petite.
Pardon, ton cousin, il va,
ouais, ouais,
il va faire quelque chose.
Moi, ça se trouve, il y a foot sale pour fille. Hein.
Moi, j'ai quitté le
circuit.
Mais
il y en a plein.
Comment ?
Tu dis du foot sale pour les filles.
Bien sûr, il y en a.
Y en a
ouais.
Bien sûr. Aujourd'hui, le foot féminin, c'est.
Oh, ça, je comprends pas. Ça.
sur l'événement qu'il y a eu le 6 juillet, là, l'événement mondial, il y avait trois joueuses féminines. Hein.
Ah ouais.
Trois joueuses féminines, il y en avait une qui joue au Barça, une qui joue à la Juve, ouais, tu vois. Et une qui jouait où déjà, je me rappelle plus elle jouait où. Et la paire qui a été révélée, certes c'est la paire de Cristiano Ronaldo, Neymar, Mbappé, etc. Mais les premières à l'avoir mise, c'est le lendemain du... C'est-à-dire qu'elle a été révélée le 6, le 7 juillet, il y avait la finale de la Coupe du Monde, et c'est là où...
C'est là qu'elles ont mises.
Ouais, elles ont été mises la première fois.
D'accord. Mais ça commence de plus en plus à faire parler hein, le foot féminin.
Oui,
il y a plein de joueuses qui sont de plus en plus suivies, médiatisées.
Clairement.
Là, depuis ces 5 dernières années, alors qu'avant c'était vraiment, pas tout le monde s'en foutait, mais malheureusement, c'était un peu relégué quoi.
Mais tout est un problème de médias en fait. À l'époque, les médias ils faisaient rien pour. Là, cette année, comme c'était fait en France et tout, on en a beaucoup parlé. Hein.
Je dis ça, mais autour de l'événement qu'il y a eu le 6 juillet, il y a eu le lancement de. J'ai fait en sorte qu'il y ait le lancement de la section féminine de Nanterre. Aujourd'hui, il y a 80 licenciés.
Ouais.
Et du coup, c'est Nike qui vont s'occuper du financement des licences des petites, etc. Du coup, c'est lourd.
C'est énorme.
80 licenciés.
Il y a 80 licenciés, ouais. Mais du coup, on a des petits soucis par rapport à ça. Parce qu'il y a un peu plus de licenciés qu'on pensait.
Ouais.
Du coup, c'est des petits arrangements qu'on doit faire là financièrement.
C'est-à-dire qu'il y a plusieurs équipes, quoi. Du coup, il y a une équipe 1, équipe 2.
Ouais, il y a plusieurs équipes. Après, je ne saurais pas te dire s'il y a équipe 1, équipe 2, championnat ou pas. Parce que je ne m'occupe pas de ça. Moi, je me suis juste occupé de faire la passe D. De faire en sorte que l'événement apporte des choses à la ville, tu vois. Pas juste qu'il y ait un événement, que tout le monde soit content.
Ouais.
Tu vois. Du coup, la ville en a bénéficié et les petites aussi. C'est très lourd.
Ah, super. Merci, Hassan.
De rien.
En tout cas, bravo pour ton parcours.
Normal, merci.
Ça fait plaisir. Ça va parler. Ça, pose pas trop de questions, moi. Ça me dérange pas. Juste, je dis ce que je fais, voilà.
La
météo dehors, c'est pas très, très bien.
C'est vrai ? Oui, c'est vrai qu'on n'a pas fait le point météo aujourd'hui. Enfin, en tout cas, moi, je ne l'ai pas fait.
C'est ce que je fais d'habitude.
La hauteur Ayoub, ça le connaît, du haut de son 1m95. Cet ancien athlète de haut niveau fait partie des futurs grands noms de l'humour français. Après 10 ans de compétition, il lâche le saut en hauteur pour réaliser son rêve, celui de faire rire les gens. Il se forge un style unique, tourné vers l'absurde. Ayoub aime parler de ce qui le touche et se moque des clichés. Les apparences sont trompeuses. un peu comme notre artiste, qui derrière sa nonchalance et son mystère nous fait découvrir sa sensibilité et sa générosité avec son public. Il intègre l'an dernier la troupe du Jamel Comedy Club grâce à sa rigueur et à son esprit de compétition, de traits de caractère qu'il s'est forgé par le sport. On écoute un extrait.
Médecin, c'est utile, on est d'accord, comme métier, on respecte. Il y a des métiers inutiles. Policiers municipaux. Oh, je suis désolé si on est dans la salle. Oh, les gars, vous servez à rien. Et là, avant de venir, je me fais arrêter par la police municipale. Ils me font, monsieur, calmez-vous. Genre, sinon quoi? Ils m'ont dit, sinon, on appelle la vraie police. La vraie police, ils sont venus, ils m'ont dit, monsieur, calmez-vous. Je dis, sinon quoi? Ils m'ont dit, on parlait pas à vous, on parlait à la police municipale. Ils m'ont laissé partir parce que j'étais un bon français. Voilà, je leur ai dit, je suis un bon français. Je me dis, voilà, je n'en ai pas besoin, je suis français. Et je sais que je suis un très bon français et je suis fier de l'être. Voilà, j'ai envie de le dire. Voilà, faites ce que vous voulez de cette information. Je suis fier d'être français, je suis un bon français, je le sais, parce que l'autre jour, j'étais au travail. Il y a deux collègues à moi qui sont partis en avance. Et j'étais devant mon patron, je dis, monsieur, il y a deux collègues à moi qui sont partis en avance. Et il m'a dit, c'est bien, Youp, t'es un bon français. Je lui ai dit, merci, monsieur, on me l'a jamais dit, ça fait plaisir. Je fais comme je suis un bon français, il y a moyen de vous m'augmenter un peu? Là, il m'a dit, t'es trop français, calme-toi, Youp, on veut pas tes origines.
Ça t'a fait rire, Hassan?
Ouais. Pas mal, ça.
Ouais, pas mal, hein.
Bon français.
Alors, tu dis que t'as toujours voulu faire rire les gens. Alors, quand t'étais plus jeune, t'as un vrai farceur?
Ouais, j'ai toujours voulu faire rire, moi. C'était très important pour moi de rigoler. C'est même toujours important. Et ça l'était encore plus à l'époque, parce que t'avais l'insouciance de la jeunesse. Et c'est tout, voilà. Ouais, j'ai toujours voulu faire rire. J'ai toujours voulu faire ça. Je savais que j'allais monter, qu'un jour j'allais faire quelque chose lié à la comédie depuis très jeune. J'allais faire du théâtre, j'allais faire de la scène. J'allais faire quelque chose par rapport à ça. Je me voyais pas travailler normalement avec des gens pas drôles.
D'accord. Ouais. C'est clair.
C'est important pour moi.
Ouais. Mais du coup, tu as commencé avec le sport.
Ouais, j'étais sportif de haut niveau pendant très longtemps. C'est un peu plus facile, je pense. J'étais en équipe de France, moi, d'athlétisme. J'ai fait 3 sélections. Et ben, en fait, l'athlétisme, c'est un sport, contrairement à plein d'autres sports, on t'oblige à le faire. C'est-à-dire, j'avais un prof de sport un jour, il est venu me voir, il m'a dit, Ayou, faut que tu fasses du 100 en hauteur. Après, je lui ai dit non. Après, il m'a dit, bah, tu vas en SVT, tu réfléchis. Après, je suis revenu, je lui ai dit toujours non. Il m'a dit, si, tu vas faire du 100 en hauteur. Après, il m'a donné 2 compotes. Je lui ai dit, ok, je vais essayer le 100 en hauteur. Vraiment, ça s'est passé comme ça en plus. Et après, j'ai essayé le 100 en hauteur. Tu sais, ça, tu commences par les compétitions UNSS, UXL et tout. Parce que moi, j'étais dans 2 collèges différents. Du coup, il y avait UXL, c'était privé, et UNSS, c'était public. Et du coup, bah, j'ai commencé ces compétitions-là. Et c'est vrai que j'avais plus de facilité que d'autres, tu vois. Et même selon certaines personnes qui faisaient déjà de l'athlétisme depuis très longtemps. Et du coup, j'ai fait ça et je commençais à gagner toutes les compétitions, tu sais, au niveau régional, même si c'était déjà très bien, tu vois, je pense, au collège. Et après, j'étais qualifié au championnat de France. Il se passe quelque chose, j'ai fini 3e au championnat de France en 5e, je crois, c'était en Benjamin. Attends. Et après, j'ai commencé je faisais toujours. Moi, j'ai fait du foot aussi. J'ai pas le même niveau qu'Hassan, mais j'ai toujours fait du foot. Et après, après quand je suis arrivé en 4e, j'ai fait foot et athlétisme. Et après, j'ai commencé à prendre du goût pour l'athlétisme. Du coup, je suis rentré dedans comme ça par pur hasard. Et pendant 6 ans, je me suis donné à fond. En seconde, j'ai intégré un centre de formation, enfin à Rennes, en Bretagne, parce que c'était le meilleur club de France. Et après, j'ai fait ça pendant 3 ans, mais ça me plaisait pas. Et en fait, à un moment, je suis arrivé à la fac. Moi aussi, j'ai fait du droit. Mais j'ai arrêté très vite. J'en ai fait 2 semaines.
Mais pourquoi t'as arrêté?
Non, j'ai pas fait 2 semaines. Non, j'aimais beaucoup. Moi, je voulais être commissaire de police à la base. En fait, j'étais fan de Navarro.
D'accord.
Je voulais être commissaire de police. Et en second plan, moi, j'ai toujours voulu faire de la scène. Depuis le début, j'ai toujours voulu monter sur scène, faire du cinéma, faire de la scène. Et du coup, je me suis dit, c'est très précaire ce métier, donc tu sais pas quand tu vas commencer. Du coup, au début, je vais essayer de me rassurer. Je me suis dit, je vais faire des études. Et du coup, j'ai fait des études de droit et ça me plaisait pas plus que ça. Et l'athlétisme, ma mère, elle me manquait. Mes repères, ils me manquaient. Du coup, je suis revenu en région parisienne. J'ai tout arrêté. Et je me suis lancé dans la scène. J'ai pris des cours et voilà. Et depuis, j'en vis. Donc, c'est trop bien. Je suis content d'avoir arrêté tout ça. Et en fait, si j'ai un conseil à donner, moi, sans que tu me demandes. Faut pas faire les choses parce que t'es bon quelque part. Faut faire les choses parce que t'as vraiment envie de le faire. Parce que quand t'es bon, c'est pas parce que t'es bon que t'es obligé de le faire. Et moi, pendant très longtemps, j'ai fait des choses parce que j'étais juste bon dedans. Et après, t'arrives à des années floues où tu te cherches et tu sais, t'es un peu triste parce que tu te dis putain, c'est pas ce que je veux faire. mais comme je suis bon, il faut que je le fasse.
Et tu t'es trouvé ? Du coup,
ouais, bien sûr. Et c'est ça, en fait, qui a fait que j'ai eu un peu de chance, c'est que très vite, j'ai eu la maturité de me dire non, en vrai, je m'en fiche, c'est pas grave. J'ai un confort dans ça, on me paye un appartement à Rennes, je m'entraîne tous les jours, j'ai un peu d'argent grâce à l'athlétisme, c'est pas fou, hein, t'avais des bourses, c'était 900 euros, tu vois, par mois. Quand t'as 19 ans, tu fais ton sport et tu gagnes un peu d'argent, c'est trop bien, tu vois. Et du coup, j'ai tout arrêté, je suis rentré, je suis retourné chez mes parents et après, je me suis lancé dans la scène, et voilà. Et j'ai fait de l'athlétisme parce que, voilà, grâce à un prof de sport qui m'a beaucoup appris, hein, par contre. Ça m'a beaucoup appris, ce sport, surtout à vivre sans argent. Et ouais, mais ça m'a beaucoup appris. Je regrette rien du tout. Je regrette rien du tout, mais je suis très content de faire ce que je fais aujourd'hui. Parce que sinon, j'aurais été triste, voilà.
Ouais. Mais justement, il y a de plus en plus d'humoristes. Comment est-ce qu'on fait pour être différent ?
C'est pas grave, ça. C'est tant mieux qu'il y en ait de plus en plus. Parce qu'en fait, là, en France, il y a un truc de... Comme c'est très facile, dans l'absolu, de monter sur scène, il y a beaucoup de café-théâtre qui se créent, il y a beaucoup d'humoristes qui se créent, il y a beaucoup de médias qui parlent de ça. Donc les gens, ils se disent, si lui, il le fait, je peux le faire.
Ouais.
Mais c'est un métier qui est tellement compliqué sur la durée que si t'es pas passionné et que t'as pas vraiment envie de faire ce métier, tu arriveras pas, c'est sûr et certain. Tu vois. Et du coup, c'est pas grave qu'il y ait plein d'humoristes, tant mieux. C'est tant mieux qu'il y ait plein d'humoristes, c'est pas très grave. Après, est-ce qu'il y a plein d'humoristes...
Bon.
Non, même pas bon, moi je juge pas le niveau des autres, mais valable sur tout ça. Qui parle aux gens et qui arrive à faire remplir une salle, qui vendent des tickets. C'est le plus important.
Ouais, mais pour remplir une salle, il faut être un minimum bon, non ?
Ouais, bien sûr. Après, ça dépend le public.
Oui, c'est vrai que ça dépend souvent du public. Tu peux. Ouais, mais en général, t'es obligé de t'adapter un peu à ton public, non ?
En fait, faut être sincère, c'est tout. Il faut même pas s'adapter au public, faut être sincère avec soi-même. Et après, oui, il y a des codes, t'es obligé de passer par là. Donc, être un bon comédien, bien parler, l'élocution et tout, mais faut être sincère. C'est-à-dire. Faut pas. Tu peux t'inspirer de beaucoup de gens, mais faut copier personne et faut faire ce que t'as envie de faire, quoi. Sinon, t'arriveras pas, c'est pareil, je pense.
Il faut forcément être drôle.
Bien sûr, ah oui.
Bah non, mais il y en a, tu peux écrire, préparer tes blagues, voilà quoi.
Ouais, parce qu'il y en a, ils font des.
Il y en a qui travaillent, hein.
Ils font des conférences de presse, c'est différent. Ils montent sur scène et ils expliquent.
Ouais, mais il y en a pour qui ça marche, tu vois.
Je sais pas, mais après, ça
mais si, mais t'as des humoristes qui sont très sérieux dans leur humour, d'autres qui sont.
Oui, mais être sérieux, ça s'appelle. C'est pas grave.
Mais
ça.
C'est travailler, non, mais c'est oui. Travailler dans le sens où de base, c'est pas forcément des farceurs, tu vois. Quand ils étaient petits, c'est juste que, ouais, ils ont un truc avec ouais, une punchline et tout.
Non, ce que tu veux dire, c'est que t'es pas obligé d'être drôle dans la vie pour être drôle sur scène.
Ouais.
C'est ça. Bah non, mais ça, j'ai jamais dit le contraire.
Oui.
Mais là, mais en fait, la vie et la scène, ça a rien à voir. Parce que c'est un métier. C'est...
Oui, mais sur scène, tu parles quand même de choses. Qui sont personnels.
Non, mais quand je parle de sincérité, je parle pas de ta sincérité de faire rire les gens dans la vie. Je te parle de ta sincérité, de ce que tu vas raconter.
Oui.
Et c'est là que tu pourras remplir une salle. Et après, ça dépend ce que tu veux. Bien sûr qu'il y a plein d'humoristes, mais tu veux faire quoi ? Tu veux être un humoriste et jouer dans des petits cafés-théâtres ou être un grand humoriste et remplir des salles grâce à ton nom ? Tout dépend
de toi. Tu veux être quoi ?
Je sais pas, moi je veux faire mon métier à fond, au maximum.
Mais oui, mais t'as quand même un but ultime.
Mon but, c'est de continuer et d'écrire des choses et d'être encore plus bon que je le suis aujourd'hui et de travailler, c'est tout. C'est ça le plus important. Après le reste, ça va venir. C'est vraiment ça. Franchement, c'est vraiment ça le plus important et je parle sincèrement. C'est de travailler et d'être fier de son travail. Et moi, je continue à travailler et je regarde même pas ce qui va se passer, ce qui se passe et on continue. Et voilà. Non mais vraiment. Mais par contre, la scène et la vie, ça n'a rien à voir. Tu peux être très drôle dans la vie et sur scène. Combien de gens que tu as rencontrés dans ta vie, même toi, je pense qu'ils t'ont dit je pense que si je monte sur scène, je suis trop drôle. Et ils n'ont jamais voulu monter sur scène.
Ouais.
Ça n'a rien à voir, quand même, tu vois. C'est deux choses différentes.
Ouais, mais c'est un impact quand même, je trouve. Enfin, ouais. Après, je pense que ça dépend de.
D'être drôle dans la vie ?
Bah, pas forcément drôle, mais c'est peut-être comment tu. Ouais, moi je trouve faut que savoir, c'est ton travail,
y a,
en fait.
Il faut savoir qu'il y a des gens, ils ont jamais été très drôles dans la vie, tu vois. Mais ils ont tellement été passionnés par ce métier, ils ont tellement travaillé, comme on dit, les derniers seront les premiers, tu vois.
Ouais.
Il y a des gens, bien sûr, qui sont faits pour ça, tu vois. Il y a des Jamel Debbouze, par exemple, c'est un mec qui était fait pour ça. Tu vois, même moi, je connais un mec avec qui joue en ce moment, c'est Boudère. Il est très drôle dans la vie, tu vois. C'est trop drôle, tu vois. Et sur scène, pareil, il a un délire, tu vois. Mais il y en a plein qui sont pas. Ils vont dire, quand je suis dans une table avec des humoristes, moi, je suis le moins drôle, mais ils font une carrière de fou. Mais ça, c'est parce que c'est du travail, parce que c'est des gens qui ont travaillé, qui avaient moins de facilité que d'autres, et ils se sont accrochés à ce qu'ils voulaient et qu'on peut arriver à un niveau. Après, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, tu vois.
Ouais.
Et c'est pas grave, s'il y a beaucoup de monde, tant mieux. Tant mieux.
Bah, c'est pas que c'est forcément grave, mais c'est peut-être. Il y en a énormément. Au bout d'un moment, on peut se poser la question, c'est pas ce que je pense, mais on peut se poser la question si c'est pas un peu saturé ou c'est pas seulement une tendance, tu vois.
En fait, qu'est-ce qui est trop bien avec ce métier, c'est qu'il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de choses, tu vois, on peut dire énormément de choses, ouais, il y a trop d'humoristes, il n'y a pas assez, il y a ci, il y a ça. Il y a un seul truc qui est vrai, et c'est trop bien, et ça ne changera pas. Dans 50 ans, ce sera pareil, c'est le public. C'est-à-dire, un public, ça ne se trompe pas. C'est-à-dire, à partir du moment qu'il y a quelqu'un qui vient te voir, qui paye sa place et qui a rigolé et qui t'a apprécié, ça s'arrête là, c'est tout. En fait, tu ne peux pas tromper le public. En fait, tu ne peux pas tromper la vérité. C'est ça qui est trop bien dans ce métier, moi, c'est pour ça que je l'aime trop, c'est qu'il n'y a pas d'effet réseau. Il n'y a pas d'effet média de couper, de c'est une vidéo, attends je vais couper, je vais mettre ça au montage, je vais faire ci, je vais faire ça. C'est que t'es vraiment sincère, si t'as travaillé, les gens ils vont rigoler, et si t'es vraiment drôle, on se rappellera de toi. Et bien sûr, il y a plein de gens, peut-être qui font pas ce métier pour les bonnes ou mauvaises raisons, après moi je suis pas leur père à eux, tu vois, ouais. Ils font ce qu'ils veulent. Mais voilà, comme je t'ai dit, c'est le public, c'est ça qui est trop bien, c'est qu'il y a un public, et c'est le public qui détermine, tu vois.
Et t'as eu des modèles, des références en toi qui t'ont donné envie?
Oui, bien sûr. J'aime beaucoup Sacha Guitry, je suis très fan de Sacha Guitry. Je sais pas si tu connais.
Pas du tout.
Tiens à voir, très très fort. D'ailleurs, il y a une pièce où il explique comment devenir un bon comédien qu'il a lui-même écrit. C'est Jean-Gaspard de Bureau. C'est un père qui dit à son fils comment être un bon comédien. Et sinon, Coluche, je suis fan de Coluche. Après, moi, ma génération, c'est Ramzy, Jamel. Qu'on le veuille ou non, c'est des gens qui ont fait énormément de choses, qui ont ouvert des portes. Ils ont cassé les portes. T'as un très grand metteur en scène aussi avec qui je travaille un peu, c'est Kader Aoun, enfin, que je joue au Panama Art Café grâce à lui. C'est un mec qui a tout créé en France, quoi. Franchement, il a produit Jamel, il a créé H, il a créé le Burger Quiz. Donc voilà, franchement, je suis bien entouré, j'ai des gens qui ont fait énormément de choses autour de moi. Et je m'inspire d'eux et j'apprends. Et voilà, et sinon, ouais, les anciennes générations, moi, d'humoristes, m'ont beaucoup appris. Et je me suis inspiré d'eux. Mais je suis très fan de Coluche, Sacha Guitry. Il y a un humoriste américain que j'aime beaucoup aussi, c'est Jesse Nick. Et sinon, voilà, les bests, c'est Jamel Debbouze, ouais. Eric Ramsey.
Et du coup, tu trouves qu'il y a une différence? Parce que souvent, on entend, ouais, mais le stand-up américain, c'est mieux. T'en penses quoi, toi, ça?
Non, c'est pas vrai. En fait, ça, c'est Gad Elmaleh, il avait dit ça, et il avait raison. Il avait dit qu'en France, on complexe beaucoup. On se rassure tout le temps comme on peut. Tu vois, et en France, on a tout, en vrai. Franchement, bien sûr que peut-être on a du retard par rapport à plein de choses, et c'est normal, tu vois. Bien sûr qu'on a du retard par rapport au stand-up, parce que ça, c'est pas dans notre culture de base. On est d'une culture très théâtrale, tu vois. Faut bien, on a des Victor Hugo, on a des références dans le théâtre, et dans beaucoup de choses. Mais dans le stand-up, on n'a pas vraiment de grosses références, et c'est des gens un peu de notre culture et de notre génération qui ont ramené le stand-up, tu vois. Jamel Debbouze, ça fait partie d'un des premiers à le ramener. À ouvrir le Jamel Comedy Club, c'est énorme ce qu'il a fait, tu vois, et personne pour lui enlever ça.
Et tu fais partie justement de la
troupe. Ah, bien sûr, et c'est énorme. Moi, je m'en rends compte. Ouais. Sans eux, je sais pas si on l'aurait fait déjà, ce métier. Et après, non, bien sûr que le stand-up américain, il est mieux, parce que moi, je le pense, parce que il y a une culture déjà. Il y a une culture du stand-up. Et qui dit culture dit public. En France, on n'a pas vraiment de public de stand-up pour l'instant. On a des gens qui commencent à s'intéresser un peu, qui connaissent un peu, tu vois. Même là, si tu demandes à quelqu'un de ma génération, il va pas te parler des nouveaux humoristes, il va te parler de Thomas Gijol, Fabrice Eboué.
Ouais.
Il va te parler des anciens. Même eux, c'est des anciens au final, tu vois. Mais on progresse, je pense, en France. Il y a vraiment du progrès dans le stand-up, et tant mieux. Après, moi, je suis pas là pour élever le stand-up, j'essaie juste de faire mon truc, quoi.
Ah oui, mais c'est le but quand même, non? Quand tu fais quelque chose qui te passionne, c'est de réussir.
Ah, bien sûr.
Comme à scène, tu vois. Mais non, mais c'est pour ça que je trouve que vous ressemblez, tu vois, même pour les cours de droit.
Voilà. Non, bien sûr. Ça m'a beaucoup...
On n'a pas fait long feu, c'est pour ça qu'on se ressemble.
Ouais. Vous avez quand même réussi.
Ça m'a beaucoup parlé ce qu'elle a dit, c'est bien. J'aimais les gens déterminés qui travaillent. Moi, c'est vraiment les deux seuls mots, tu vois. Et d'ailleurs, même à scène, je pense qu'elle dirait, on travaille jamais assez, hein, au final.
Non.
Ah ouais, mais c'est
on travaille jamais assez, et c'est vraiment ça, tu vois. Il faut s'occuper vraiment de soi et de son travail.
Toujours l'impression de ne pas avoir fait tout.
Ouais.
Moi, c'est ça qui me...
Mais c'est bien, ça motive, du coup.
Après, bien sûr, il y a des facteurs, des opportunités, il faut savoir les saisir. Il y a Dieu aussi, moi je crois énormément en Dieu, voilà. J'ai pas honte de le dire. Et y a ça, je place énormément ma foi en Dieu, j'ai eu des épreuves dans ma vie qui m'ont fait que je me suis rapproché de Dieu. Et tant mieux, ça m'a... Je sais pas, on va... Bref.
Voilà. Et t'as toujours été soutenu par ta famille? Enfin, ils sont fiers, j'imagine.
Non, mon père, il a appris que je faisais ça il y a 3 mois.
Ah ouais?
Ouais, c'est un de mes cousins qui lui a envoyé une vidéo de moi. Mon père, il savait pas, je n'avais jamais vraiment parlé, ouais. Mais c'est moi, je gagne ma vie depuis très peu de temps grâce au stand-up. Hein. Et enfin, gagner ma vie, je pars pas dans des jets privés comme ça, non.
T'as pas de téléphone?
Non, non.
4.
Moi, je gagne ma vie et je suis très content, mais je suis pas...
tu l'as garé à côté, le jet, c'est ça?
Le jet?
Ouais.
Le jet, c'est mes deux pieds, là. Mes deux jambes.
Voilà. T'as d'autres questions?
Il est bien, mais... la personne la plus drôle de ton entourage?
Kylian, un ami à moi, un très bon ami à moi, très très drôle, exceptionnel.
Ah ouais, ouais. C'est pas ta mère?
Non, c'est ma mère aussi, ouais.
Parce que souvent, moi j'entends beaucoup, ouais, c'est ma mère,
bien sûr que ma mère,
charrette,
mais si, ma mère, si ma mère, elle est trop drôle, mais...
Ouais.
Mais c'est deux choses différentes. Non, non, mais oui, bien sûr, en plus j'ai longtemps dit ma mère.
Ouais.
Mais comme elle t'aime pas trop, bah, je vais pas trop parler d'elle dans notre podcast. C'est pas vrai, je te connais pas, t'inquiète pas.
Mais ouais.
Non, non, Kylian, un de mes meilleurs amis, exceptionnel. Okay. Très, très drôle, ouais.
Et est-ce que t'as des projets futurs?
Ouais, plus venir ici.
D'accord. Et ensuite. De toute façon, je sais pas si on t'invitera à nouveau, donc j'ai envie de te dire. Ça, c'est vrai,
elle est vraiment bien sans l'émission, il faut que vous venez tous. Vraiment, même si vous avez rien à raconter, venez. Parce qu'il y a du café, du thé, et il y a une dame qui dit rien, qui nous regarde depuis tout à l'heure, qui est hyper gentille. Non, mes projets futurs, c'est de travailler, d'avoir un spectacle qui soit différent. Être différent, moi, c'est j'aime bien être différent. Et travailler.
Et comment t'es différent? C'est qui à Youl, justement? Parce qu'on a du mal un peu à te définir.
Bah,
parce que moi, j'ai du froid, chaleureux.
C'est le public qui détermine ça, ouais.
Ouais.
Qui sait si, qui est différent. C'est un peu prétentieux de dire que je suis différent. Mais si on me demande comment je suis, je dirais différent. Après, je pourrais pas te dire pourquoi. Parce que moi, je pense, j'ai une autre façon de voir les choses par rapport à plein de gens. Mais après, ça se trouve, je peux ressembler à Hassan, tu vois. Je te dis pas que je suis jamais, je me mettrai sur un piédestal.
Ouais.
Donc ça peut être prétentieux de dire ça. Mais non, non, j'aime bien, tu vois. C'est bien de voir les choses différemment par rapport à la troupe, tu vois.
Ouais. Et ton humour, tu le qualifies comment? Me dis pas absurde.
Je sais pas ce que ça veut dire, l'absurde.
Ouais, c'est qui est contraire à la logique, mais.
Mon humour. Bah, il est drôle. Non, j'observe et j'aime beaucoup parler des choses qui servent à rien. Donc on se prend beaucoup la tête et là je suis en train d'écrire sur ça.
C'est ça que tu parlais de la police municipale.
Ouais, c'est vrai, c'est sûr. D'ailleurs, le prochain truc, c'est animatrice de radio. J'en
ça sert à rien.
Non, ça sert à énormément de choses. À raconter sa vie. Non, voilà.
Ou la vie des autres,
mon
plutôt.
Mon humour. Non, mais je parle de moi. C'est pour ça que je dis raconter sa vie. L'observation, ouais.
Ouais.
D'observation et voilà, ma sensibilité fait mon humour, on va dire.
Ok. Et dans 10 ans, tu te vois comment? Ce serait quoi ton... T'as pas... Enfin, une salle, je sais pas, un projet, un truc où tu te dirais...
Dans
ouais,
10 ans, c'est un peu nul hein, comme projet. T'imagines, dans 10 ans, c'était...
Non, mais on va dire que dans 10 ans, tu peux être en tournée, tout le monde te connaît, enfin, je sais pas, moi.
J'espère que ce sera avant
dans 5 ans, voilà, dans 5 ans. Ouais, t'es encore jeune, hein.
Franchement... En fait, moi, tout se résume à ça. J'espère remplir les salles, le plus de salles possible, mais vraiment, c'est d'être heureux et en bonne santé et d'avoir mes parents proches de moi. Vraiment, c'est vraiment quand on me demande dans 10 ans, c'est vraiment cette réponse. Et je répondais ça il y a 10 ans et je répondrai ça, je pense, dans 10 ans. C'est vraiment ça mon premier souci. Et après, oui, c'est de vivre ce que je fais, mais c'est déjà trop bien parce que je suis très content.
Avoir un jet, peut-être, de téléphone.
Non, mais ça viendra, mais c'est pas grave, c'est pas plus important. C'est vraiment d'être heureux dans ce que je fais et de rien regretter, surtout. Et d'avoir le temps, c'est ça le plus important, c'est le temps, la santé. Et j'espère être avec mes parents, c'est ça le plus important.
Ouais.
Moi, je me vois pas, ça me voit sans ma mère.
C'est mignon. Ouais, c'est très touchant.
Vraiment, c'est ça le plus important.
Ouais. Et quel a été ton plus beau souvenir sur scène? T'as eu dans ce que tu fais qui t'a marqué?
Mon plus beau souvenir, c'était il y a un an quand j'ai intégré la troupe du Jamel Comedy Club. Et il y a beaucoup de gens du métier dans la salle et j'ai fait un très bon passage. C'est les humoristes, ils aiment bien dire j'ai défoncé la salle. Tu vois, moi je parle pas comme ça. Non, j'ai fait un très bon passage, j'étais très content de moi et en plus ça a débouché juste après sur la troupe du Jamel Comedy Club qui m'a permis de vivre du stand-up quoi maintenant. C'est-à-dire que j'ai pu faire mes cachets, être intermittent du spectacle et d'en vivre et de partir partout. Là je pars au Maroc dans 3 semaines pour jouer et c'est trop bien.
C'est cool.
Mais c'est ça mon plus beau souvenir. C'est un de mes plus beaux souvenirs. Après, j'en ai eu plein. Mais...
Ouais.
Quand le public rigole et qu'ils applaudissent et qu'on vient de voir à la fin et qu'ils disent on a bien aimé, t'as été différent. Ah, t'es content. Alors là, crois-moi que tu passes un bon moment. Quoi. T'as envie de.
T'as envie de continuer quoi.
Si je buvais de l'alcool, j'aurais été au bistrot. Pour fêter ça. Quoi.
Et tu réponds quoi aux détraqueurs qui disent que t'es toujours défoncé parce que t'as les yeux rouges? Je voulais qu'on en parle ça.
Ma vidéo, parce qu'ils ne savent pas, ma vidéo du Comedy Club, elle a beaucoup tourné, moi, avec la police municipale. J'ai eu des très bons retours. Et en fait, j'ai les yeux très, très rouges dans ma vidéo, parce que je suis très sensible des yeux. Et en fait, on m'a maquillé pour ma première fois, pour la vidéo Canal+, tu vois. Et, Et en fait, la maquilleuse, d'ailleurs, je la déteste. Ça s'appelle Juliana. Elle m'a, juste avant de monter sur scène, ils te font des retouches. Et elle m'a enfoncé le stylo très loin dans les yeux. Et moi, je suis très sensible des yeux. Dès que tu touches mes yeux, moi, si je vois quelqu'un pleurer, je peux avoir les yeux rouges, tu vois. J'ai une sensibilité auprès des yeux. Je sais pas ce qui se passe, tu vois, mais je peux avoir les yeux très rouges, ouais, très vite. Et les gens, ils pensent que je suis défoncé sur scène. Parce que c'est vrai que j'ai un peu l'air fatigué et tout, tu vois. J'ai jamais fumé de drogue, voilà, j'en fumerai jamais.
Ouais, mais ça a une importance, ce qu'on peut dire, par exemple, sur les réseaux sociaux.
Ouais, mais du moment que c'est pas vrai, on s'en fout.
Oui.
Ça a une importance, c'est pas grave au final.
Ouais, bien sûr,
puis,
mais.
Là, l'important, c'est juste, il a les yeux rouges, je crois qu'il est défoncé. C'est pas un truc de waouh. Je suis pas rentré chez moi le soir, j'ai fait oh putain, on m'a un peu insulté. C'est pas grave.
Ouais, et tu fais attention justement à ce qu'on dit sur les réseaux sociaux ou pas?
Moi, je fais surtout attention à mes blagues et, ouais, à mon travail. Donc, c'est surtout ça qui me. Je me concentre sur ça vraiment. Que mes blagues soient bien et que ça parle aux gens et que les gens se retrouvent dans ce que je dis et que ça fasse rire, c'est le plus important. Je blesserai personne, j'aimerais pas blesser les gens. Si je pense que j'ai blessé quelqu'un lors d'une blague, c'est que j'ai raté quelque part. Donc ça, c'est vraiment un truc dont j'essaie de m'accrocher.
Je fais de l'humour bienveillant comme Richard Sabat.
Pas bienveillant. En fait, pas bienveillant, je suis bienveillant, donc je fais mon humour à moi. Et c'est tout. Mais je me dis pas, ouais, ça va blesser les gens. C'est vraiment, moi, je parle des choses qui me plaisent, et qui m'intéressent, et qui me parlent. Mais la police municipale, ils servent vraiment à rien. Et ça, c'est pas méchant, mais bon, au bout d'un moment, il faut rater des conneries. C'est bien, ils prennent de l'argent gratuitement, mais. ils mettent les PV, ils font les marchés à 4h le matin. D'ailleurs, là, ils m'entendront pas parce qu'ils dorment. Voilà. Parce que demain, il y a le marché. Là, voilà, j'essaye d'être. C'est pas grave ce qu'on dit, c'est pas très important. Quand on parle du physique et tout, c'est pas ça le plus important. C'est vraiment tout le travail, tu t'en fiches. Et puis c'est un métier où les gens. Il faut savoir, c'est que les gens qui commentent, ils ont énormément de temps. Donc ils ont gagné de base. Moi, j'ai pas le temps qu'ils ont. Ouais. Si tu commentes toutes mes vidéos, t'as gagné. Parce que moi, déjà, j'ai pas autant de temps que toi, quoi. C'est que leur vie, elle doit pas être si sympathique que ça.
Ouais.
Et donc ils essayent de se rassurer comme ils peuvent. Et puis, quoi. Puis dès qu'ils voient quelqu'un un peu réussir. C'est de mettre un truc, quoi. Même si des fois c'est un peu, tu vois, c'est un peu méchant.
Ouais.
C'est pas grave.
Faut pas calculer.
J'ai ma mère qui prie pour moi tous les jours, elle m'aime énormément, c'est ça le plus important.
C'est trop mignon.
Non, mais c'est vrai.
Moi, ça me touche quand ça parle des parents. Tu vois, toi, c'est les yeux, moi, c'est les parents. Enfin, bref. Du coup, il y a beaucoup d'humoristes qui commencent par être humoristes et qui veulent être acteurs. Est-ce que c'est aussi ton cas ou pas du tout?
Alors, moi, j'aimerais être joueur de foot.
Joueur de foot. Bah, je te mets en contact avec Hassan, voilà, c'est bon.
J'ai quitté le circuit.
Ouais, mais t'as toujours des contacts ou pas?
D'ailleurs, au foot, quand t'arrêtes, c'est que tu t'es blessé.
Ouais.
En athlétisme, t'arrêtes parce que t'en as marre. Tu vois, t'es juste arrêté. Tu vois. C'est souvent, on dit au foot, je me suis fait les ischios.
Non, ligament croisé.
Ouais, ligament croisé. Ça, c'est tout le monde. C'est.
Moi, c'est pas ça.
Ouais, j'étais un grand joueur.
Nous, en athlétisme, ouais, juste
t'étais blessé où?
Moi, j'ai juste croisé quelqu'un.
Au genou et à la cheville.
Ok, ouais.
Cartilage décollé de la cheville.
Ah ouais, c'est chaud ça.
Comment?
C'est chaud ça.
Ouais, c'est avec des actualités encore. C'est-à-dire que dès que je fais un five, ouais, des gens disent moi j'ai mal.
Gaffe. Moi j'ai une entorse mal soignée et j'ai encore mal.
Ah, moi j'ai mal à vie, je crois. Enfin, c'est pas je crois.
De toute façon, quand t'as ça, c'est.
Au foot, c'est ligament croisé. En athlétisme, c'est que tu croises quelqu'un et il te dit arrête l'athlétisme. Et après, t'as arrêté. Tu vois? Et tu me disais quoi sur les humoristes?
Je te disais si c'était aussi ton but d'être, de faire de la comédie, d'être
moi,
acteur.
Moi, j'aime beaucoup le cinéma énormément. J'aime beaucoup l'acting, j'aime beaucoup jouer.
Peut-être que j'ai joué dans un film.
Et ouais.
Avec Luc Besson.
On me voit pas.
Ouais.
Je suis une boîte à chaussures dans le film.
Bah ouais.
Moi, je suis un alien. J'ai fait une silhouette, ouais. Je suis parti en Chine et tout. Et mes meilleurs moments de ma vie, d'ailleurs. C'est parti des meilleurs moments de ma vie. Il y a un van noir qui est venu me chercher en bas de chez moi. Mon père, il a cru m'enlever. J'ai pas compris. Non, vraiment, je suis parti en Chine pour ce film. J'ai fait une silhouette, j'ai fait un vrai film avec une grosse production, un des plus gros projets européens. Et ça m'a donné envie de faire du cinéma, d'ailleurs, ça. Mais vraiment, là, dans un premier temps, moi.
C'est quoi le film?
Valérien.
Je connais pas.
Avec Cara Delevingne, Rihanna et tout. Je les ai tous vus. Mais eux, ils m'ont pas vu parce que j'étais déguisé. Je crois que c'est vrai, tout ce que je t'ai dit. C'est vraiment vrai. C'est Valérien, ouais, il a pas trop fonctionné en France, mais il a beaucoup marché en Chine. Et moi, bien sûr, si un jour il y a un. Parce que ça reste. En fait, il ne faut pas oublier, la scène, c'est un métier avant tout de comédien. Tu vois, même les gens qui viennent sur scène et qui sont comme ça, qui sont très statiques, il y a une mise en scène, il y a un jeu. Tu vois, c'est avant tout un métier de jeu et de comédien. Ouais. Tu vois. Et franchement, tous les grands du métier te diront ça. Et c'est pour ça que là, il y a un peu une vague d'humoristes qui viennent et qui te font. Qui viennent avec un micro, ils pensent que c'est facile, ils te racontent des blagues, mais il n'y a aucun jeu. Franchement, sur la durée, ça marche pas. Je te promets que c'est vrai. Même Haroun, par exemple, qui est une personne qui a plus réussi là, dans ce domaine-là.
Haroun est très fort.
Haroun est très fort. Et même son, c'est un jeu en vrai. C'est, il a une mise en scène. Ouais. Il y a un metteur en scène qui s'appelle Tiernotune. Et il s'occupe de lui, et il fait sa mise en scène. Et même si le mec il est très statique et tout, juste le fait de lever son épaule, c'est un jeu à ce moment-là, d'imiter, etc. Et bien sûr, c'est demain, moi, moi, ce que je vais me concentrer d'abord, c'est sur la scène. Je vais vraiment écrire un spectacle qui me parle et qui soit fort. C'est vraiment mon but. Peut-être ça prendra 3 ans, 2 ans. Mais je vais vraiment écrire un spectacle, franchement, je suis très fier de spectacle. Et après, dans un deuxième temps, bien sûr, si demain on me propose un rôle qui me convient et qui me plaît, bien sûr que je le ferai avec 100%. Moi, j'ai déjà refusé des rôles. Faut que tu le saches. Je devais tourner dans la série Les Sauvages. Je devais avoir un des rôles principaux et j'ai refusé. Voilà.
Parce que ça te ressemblait pas.
Parce qu'il y avait une scène à un moment qui était un peu qui me parlait pas et c'est tout. Voilà.
La scène de la mosquée.
Non, même déjà ça me parlait pas, mais autre chose encore. Bref, je te le dirai en interne. C'est de me déguiser en Amina. Là, bref, c'est une scène vraiment qui m'a pas parlé. Et voilà, et j'aurais pas honte de refuser. J'ai déjà refusé des choses et j'aurais pas honte de refuser. Pour l'instant, on ne parle pas trop de moi dans le cinéma. Je ne crois pas que je suis une référence dans le cinéma. Vraiment.
Ah non, moi, je ne crois pas, mais...
mais je pense que oui, il y a pas mal d'humoristes sur le long terme qui aimeraient être comédiens. Parce qu'en fait, la scène, c'est trop dur. C'est-à-dire, déjà, si tu arrives à écrire un très bon spectacle, tu t'es mis à un niveau qui est énorme. Un deuxième spectacle, c'est trop bien. Et après, franchement, bien sûr, après, soit tu fais de la production et tu t'occupes des autres, ou soit tu fais du cinéma. Parce que tu peux gagner du cinéma, quand tu as un nom, tu peux faire de l'argent très facilement et ça reste un métier où on te voit, quoi, sans trop faire d'efforts. Même si c'est un vrai métier, tu vois. Mais la scène, c'est... Faut remplir sa salle, faut apprendre par cœur son texte.
Du coup, c'est important d'être connu.
Faut broder. À mon niveau, non. Moi, pas mon niveau, c'est pas très important. Moi, c'est pas très important, mais...
Mais t'as la volonté d'être connu.
Non, je m'en fiche d'être connu, en fait. Moi, même si demain, on me dit à la vie, tu joueras devant 100 personnes ou 40 personnes, c'est pas grave, je le ferai, parce que j'aime vraiment ce métier. Mais après, il y a un truc qui est paradoxal, c'est que oui, si t'es très bon et que si on parle de toi, bien sûr tu seras connu. Donc c'est la suite logique. Mais c'est pas une volonté. Moi, ma volonté, c'est pas d'être connu. Tu vois. J'aurais jamais fait du son en hauteur, sinon.
Ouais, mais t'as changé. T'as quitté les pistes.
Ouais, parce que ça me parlait pas. Mais non, je m'en fiche d'être connu, vraiment. C'est pas ça le plus important.
Et où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux?
Ayoub Marceau, sur Instagram.
Et toi, Hassan, on peut te suivre ou... ton association.
Ouais.
Si tu veux, sur Instagram.
Ouais.
C'est quoi? Le monde est à nous, c'est
ouais,
ça?
Ouais, c'est ça. C'est A comme association. Et le monde est à nous. Ouais, c'est ça, ouais.
Ben voilà. Ben merci beaucoup. Et merci Catherine. Et nous, vous pouvez suivre du coup nos aventures sur Ça va parler sur notre compte Instagram. Ça va parler, ça va parler, ça va parler.